Alors, finalement, aujourd'hui, à peu près, où on en est? Des chrétiens dans le monde, il y a des catholiques, à peu près 1 milliard d'eux. À peu près. Sur 1 milliard d'eux de catholiques.
Sur combien?
Sur quoi? On est 7 milliards dans le monde. Voilà, à peu près. Hein. Dans ces catholiques romains, l'immense majorité appartiennent à l'Église latine et il y a quelques églises catholiques orientales, entre 20 et 25, et elles représentent 17 millions de catholiques. Pas beaucoup, mais elles existent. Les orthodoxes, ils sont environ 200 millions. Ils sont structurés en églises autocéphales, qui, à l'origine, correspondaient à des structures de territoire et qui, petit à petit, se sont transformées en églises nationales. Et c'est un des problèmes de l'orthodoxie actuelle. Les protestants, ils sont environ 1,1 milliard en donc très nombreuses denominations. Et en gros, un tiers sont des protestants traditionnels, luthériens, calvinistes, anglicans, etc. Et deux tiers sont évangéliques. Et une très très grande fluidité entre ces groupes. Et dire qu'un groupe appartient à cette catégorie-là ou à cette catégorie-là, c'est pas toujours très net. Les protestants sont de très très loin ceux qui ont le plus grand dynamisme missionnaire actuellement, surtout les évangéliques.
On dit évangéliste ou
évangélique? Évangélique.
On peut dire c'est pareil, c'est le même.
C'est compliqué. J'ai toujours du mal parce que les luthériens se disent évangéliques aussi, alors qu'ils sont plutôt ce que les Anglais appellent mainline, etc. Bon, alors. Je voudrais avancer un peu là-dessus, puis après, j'ai passé un peu de temps. Donc, les églises orientales catholiques, il s'agit d'églises, comme leur nom l'indique, sont en général ancien, qui sont en communion avec l'évêque de Rome, mais qui sont de tradition orientale, avec des langues issues du grec, du syriaque, etc. Elles ont un droit canonique propre, avec une hiérarchie en communion avec Rome, mais propre. Certaines ont des patriarches majeurs, certaines ont des évêques, bon. Et une liturgie propre, des liturgies à elles. Elles étaient présentes en Grèce, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique, en Éthiopie, en Inde, les Syro-Malabar, par exemple, qui sont des églises qui étaient en Inde, dès l'origine du christianisme, et que quand les Portugais sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait des chrétiens en Inde. Et puis bon, comme il y a des phénomènes de migration, ils sont maintenant présents dans le monde entier. Il y a un diocèse Syro-Malabar à Buenos Aires, un autre à Chicago, un autre à Toronto. Alors, ces églises ont deux types de statuts. Certaines sont des églises qui, au moment de la rupture, de l'éloignement progressif entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, ne se sont jamais séparées de Rome. C'est le cas des églises maronites du Liban. C'est le cas de l'église Syro-Malabar, qui, en fait, au moment de la séparation, était perdue dans son Inde du Sud, et quand les Portugais sont arrivés, elles sont restées avec Rome. Il y a des églises qu'on appelle uniates, c'est le cas de l'église catholique ukrainienne par exemple, c'est des églises que l'histoire avait fait basculer du côté de l'orthodoxie et qui sont repassées en tant qu'église au sein de l'église de la communion romaine. Alors c'est pour ça que par exemple vous avez une église melkite grecque orthodoxe et une église melkite grecque catholique. Les seconds sont des uniates qui sont repassés du côté de l'Église romaine.
Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui explique?
Alors, ça peut être des raisons de politique active de retour au bercail de la part de Rome, qui, dans l'histoire récente, a été beaucoup plus dynamique que les églises orthodoxes, qui étaient beaucoup plus enferrées dans des questions politiques et de survie, que ce soit en Grèce, en Russie, c'était difficile, en Turquie. Ça peut être des questions beaucoup plus politiques. On revient toujours à l'Ukraine, qui est la plus grande des églises catholiques orientales. Donc actuellement, vous avez trois églises en Ukraine. L'église catholique ukrainienne, en communion avec Rome. L'église orthodoxe ukrainienne autocéphale reconnue par Constantinople. Et les paroisses qui ont décidé de ne pas suivre Constantinople et de continuer à se reconnaître comme dépendant de Moscou. Tout ça avec la même liturgie, les mêmes lectures, les mêmes... Le fidèle de base, il ne comprend rien. Soyons. Hein. Et donc, vous voyez, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du cours d'histoire, c'est la paix de Brest-Litovsk qui avait consacré l'existence de l'Église catholique ukrainienne, donc c'est au début du XVIIe. Hein. On est dans l'éternel conflit entre Moscou et Kiev. L'éternel, qui date de longtemps. Bon, alors donc, deux grosses questions. La légitimité de l'uniatisme, qui est très très remise en question et qui est vraiment un problème majeur entre orthodoxes et catholiques romains. Les orthodoxes estiment que c'est un péché contre l'Église, l'uniatisme. Parce que l'Église doit être territoriale et qu'à partir du moment où dans un territoire il y a une Église autocéphale qui historiquement a été liée à d'autres, elle ne peut pas changer d'allégeance. C'est une question théologique majeure pour les orthodoxes. Donc la question de l'uniatisme est vraiment très grave pour eux. Après, il y a une question...
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas.
Uniatisme,
je m'excuse.
Ça, l'idée, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'idée qu'une église, par exemple donc l'église ukrainienne ou l'église melkite grecque, en groupe, alors qu'elle était dans la communion orthodoxe, un groupe, une église, décide de revenir en communion avec Rome. Hein ? Voilà. Et c'est finalement...
C'est fidèle à l'esprit de l'église au départ. Ça, c'était... Puisqu'on avait, vous nous avez expliqué la semaine dernière qu'on avait justement des églises très locales et qui avaient chacune leur...
Non, c'est fidèle à la conception de l'église du départ. Oui. Le problème, c'est que la question de la primauté de Rome ou pas est au cœur de ça. Parce que pour les orthodoxes, cette fédération d'églises locales en union ne passe pas forcément par la primauté de Rome.
Oui, alors, donc du coup, la question c'est, est-ce que les églises orthodoxes reconnaissent finalement l'église de Rome comme une église ordinaire ou Quel est le regard porté par les orthodoxes sur l'église
À partir du moment où l'église de Rome a la prétention à la primauté, et non pas à être seulement le patriarcat d'Occident, ils ne peuvent pas la reconnaître. D'accord. C'est l'histoire de la primauté. Oui. Ils pourraient reconnaître le patriarche d'Occident. Oui. Vous voyez ?
Comme l'un d'entre eux,
mais à condition que l'église catholique romaine n'ait aucun diocèse en territoire orthodoxe. Ils y tiennent énormément.
C'est pas gagné.
Voilà. C'est pas... Non, c'est pas gagné.
Il y a en Roumanie aussi, hein, parce que j'étais en Roumanie, il y en a beaucoup d'uniates.
Oui, il y a beaucoup d'uniates en Roumanie. Il y a des orthodoxes et des uniates en Roumanie. Donc il y a une église roumaine catholique orientale et une église roumaine orthodoxe. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Et les églises catholiques orientales, quand je vous dis, il y en a entre 20 et 25, ça bouge beaucoup parce que, par exemple, là, l'église catholique d'Érythrée vient de se séparer de l'église catholique d'Éthiopie avec la bénédiction de Rome. Hein. Donc, ça en fait une de plus, du coup. Deuxième question. Est-ce qu'il s'agit d'églises qui sont liées, ces églises catholiques orientales? Est-ce qu'elles sont des églises particulières liées à un territoire? ou est-ce qu'elles sont des églises missionnaires à part entière? C'est une question qui se pose beaucoup en Inde. Les Syro-Malabar, qui sont très nombreux, ils sont 3 700 000, c'est quand même beaucoup. Ils sont originaires d'une zone de l'Inde qui s'appelle le Kerala, qui est au sud-ouest de l'Inde, au sens un peu plus large. La grosse question qui se pose, c'est alors qu'ils sont très dynamiques sur le plan missionnaire, qui sont extrêmement dynamiques également sur le plan migratoire, parce que les populations chrétiennes de l'Inde étant plus éduquées que les populations non chrétiennes, elles ont plus de dynamisme économique migratoire, etc. Est-ce que quand un chrétien du Kerala s'installe à Delhi, il émarge à l'Église latine, ou est-ce qu'il va avoir le droit à un diocèse Syro-Malabar? C'est très très difficile pour les églises d'Inde catholiques qui ont un statut où le président de la conférence épiscopale doit être un Syro-Malabar, puis un latin, puis un Syro-Malankar. Alors les Syro-Malankar, c'est des Syro-Malabar qui étaient allés à l'orthodoxie et qui sont revenus au catholicisme. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont 400 000 à peu près. Ou est-ce que l'église Syro-Malabar a vocation à ne rester que locale dans ses diocèses d'origine au Kerala et dans le sud de l'Inde, au Kerala ou au Karnataka? C'est des questions qui sont très compliquées. Bon. Si je continue, je vais en passer des... Alors, maintenant, on passe à l'orthodoxie. Alors, l'orthodoxie, c'est un monde très culturel, théologique, radicalement différent du nôtre. On a un lien très très fort entre la liturgie, la mystique, la théologie. Tout est mêlé. C'est celui qui prie qui est théologien. Connaître, c'est être avec. Moins on en dit sur le dogme, mieux c'est. Le dogme, c'est un pis-aller. Tout est dans le sentir, la vie spirituelle. Et donc, ce que je disais, c'est que le magistère des évêques, il est là pour confirmer la foi des fidèles. Évidente. La liturgie est extrêmement importante et elle doit être belle. Influence du royaume. L'orthodoxe, c'est quelqu'un qui se sait sauvé par Jésus-Christ qui est à la source d'une nouvelle création. Et les angoisses de salut qui ont été très présentes dans l'Église catholique et dans les églises protestantes au deuxième millénaire, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais être sauvé après ma mort, ça n'effleure pas l'orthodoxe. Il prie pour le salut du monde, mais le sien, individuel, pas tellement. C'est important de se rendre compte de ça. Et l'idée que le salut passe par une nouvelle création fait qu'actuellement, l'orthodoxie est très à l'aise avec le courant écologiste qui se met à devenir puissant. Ça correspond tout à fait à la spiritualité orthodoxe. La spiritualité de la création d'une cosmologie. La cosmologie et l'ecclésiologie, c'est la même chose quasiment pour l'orthodoxie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est difficile à comprendre pour nous autres occidentaux. Donc, également, ces deux mains de Dieu qui sont le Christ et l'Esprit. Et du coup, c'est l'Esprit qui agit. Puisqu'à l'ascension, le Christ a terminé sa mission. Je le dis parce que c'est moins net dans les églises occidentales. Alors, j'essaye de ne pas trop traîner, mais il y en a pour des heures et c'est compliqué. Les fondements de l'Église pour les orthodoxes. L'Église, c'est quelque chose qui vit au cœur de la Trinité. La Trinité a une vie intime, pour l'orthodoxie, avec cette circulation d'amour entre les personnes. Et cette circulation d'amour, cette intimité entre les personnes, elle coule sur l'Église. Vous voyez? L'Église, c'est vraiment le corps du Christ, mais le corps glorieux du Christ, qui vit par l'Esprit. Et donc, très important, cette intimité de l'Église dans le corps glorieux avec son Seigneur. Au niveau de la hiérarchie, le pouvoir des clés, c'est pas le tuer Pierre pour les orthodoxes, qui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. C'est l'apparition aux disciples dans Saint Jean, chapitre 20, verset 23. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est ce pouvoir des clés, il est donné à tous les apôtres en groupe. Il n'y a aucune primauté. Ce qui explique que les évêques sont bien les successeurs des apôtres, mais qu'il n'y en a pas un qui est le successeur de Pierre. Vous voyez ? Et donc, il n'y en a pas un qui a la primauté. Ils sont en communion les uns avec les autres. Donc, cette question de la primauté, ils la voient comme une question théologique.
C'est quelle référence ? Recevez l'Esprit Saint ?
Jean 20, verset 23. C'est l'apparition où la paix soit avec vous. Voilà. En plus, c'est très important parce que c'est le Christ ressuscité. Donc il y a quelque chose pour les orthodoxes d'important, c'est pas le Christ terrestre qui fonde l'Église, c'est le Christ ressuscité. Et après son ascension, il disparaît, il laisse le pouvoir, il laisse Dieu agir par l'Esprit Saint, puisque Dieu a deux mains, le Christ, le Fils et l'Esprit. Vous voyez, pour les orthodoxes. Les deux mains de Dieu, c'est du Saint-Irénée. Alors Saint-Irénée, il est évêque de Lyon, mais c'est un oriental, hein. Il écrit en grec. Alors, ministère liturgique, didactique, pastoral de l'évêque, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, on est là dans la grande tradition de l'Église. L'Église locale manifeste en un lieu la plénitude de l'Église universelle. Pas de problème non plus, puisqu'en fait, l'Église catholique a retrouvé tout ça de l'Église ancienne, mais les orthodoxes nous ont été à retrouver. La dignité apostolique repose sur l'Église entière. Donc, la grosse importance ecclésiologique, c'est cette histoire de communion des apôtres qui se perpétue dans la communion épiscopale, mais sans primauté. Et puis, quelque chose que je n'ai pas bien dit, c'est l'Église orthodoxe, la communion est ce qu'on appelle synchronique et diachronique. C'est-à-dire, l'Église orthodoxe, ils vont dire que dans une vraie communion orthodoxe, on est en communion entre une paroisse orthodoxe de Rome, de New York, une de Constantinople et une d'Addis Abeba. Mais ils ont également une très grande conscience de ce qu'on appelle la communion diachronique, c'est-à-dire que une paroisse d'aujourd'hui est en communion avec ce que vivaient les chrétiens d'il y a 8 siècles et est en communion avec ce que vivront les chrétiens dans 8 siècles. Et du coup, cette idée de communion diachronique, ça fait que c'est une Église qui évolue très très lentement. Parce que la fidélité à cette communion entraîne peu de bouleversements. Alors, je vais passer aux grands principes protestants. J'ai pris...
Pardon, excusez-moi, je suis désolé, mais l'Église protestante, c'est par rapport à cette tradition, justement, comment est-ce que l'Église orthodoxe se positionne par rapport à la modernité ou plutôt à la postmodernité d'aujourd'hui, enfin,
mal.
Voilà.
Donc, je réponds un peu rapidement. Je ne connais pas bien. Moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être que je ne comprends pas. En revanche, ce que je vous disais, c'est qu'ils sont très à l'aise dans le courant écologique. Écologique. Parce que cette notion de nouvelle création, de responsabilité de la création, est très, très puissante dans l'orthodoxie. Donc, finalement, ils sont très mal à l'aise dans ce qu'on peut appeler la modernité, mais avec l'apparition des nouvelles formes postmodernes, ils vont peut-être nous rattraper, recoller. Alors, il ne faut pas oublier aussi, également que l'histoire de l'orthodoxie, c'est quand même un 19e, un 20e siècle sous le chapeau des dictatures, des guerres, etc. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour approfondir leur spiritualité, ils étaient dans la survie. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est dur pour... Mais j'ai toujours du mal. J'ai eu une fois, j'avais une rencontre œcuménique sur la question morale, la question du mariage. Et donc, ce qu'on a posé comme question aux différentes parts, c'était toutes les religions chrétiennes pensent que le mariage est indissoluble, elles sont toutes confrontées au fait que de l'échec du mariage, comment elles font ? Alors, au-delà des réponses de chaque religion, ce qui m'a frappé, c'est que les représentants, donc il y avait des anglicans, Église protestante unie, catholique et orthodoxe, les trois représentants, entre guillemets, des églises occidentales, ont pris des exemples de jurisprudence des 20 dernières années, et les orthodoxes, l'orthodoxe n'a pris des exemples de jurisprudence que du premier millénaire. Ce que je vous appelle la communion diachronique. Vous voyez ?
Mais sur des questions justement maritales, ils sont plus souples que nous. Hein. Il y a
des... Pas tant que ça. J'ai découvert à cette occasion que la discipline du veuvage est la même que celle du divorce, qui a autant besoin de dispenses longues comme ça pour se remarier après veuvage qu'après divorce.
Ah, oui. Il y a des remariages, il y a une acceptation réelle de la communauté, il y a des points.
C'est vrai, mais quand vous pensez que, je suis d'accord avec vous, mais c'est également le cas pour les veuves. Hein, la liturgie de remariage après veuvage est une liturgie pénitentielle. Ça en dit long. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais bon.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a acceptation du remariage, etc. Bon, on ne va peut-être pas rentrer dans ces détails, mais j'ai été frappée sur le fait que sur certains plans, ils étaient plus souples que nous, mais sur d'autres, ils étaient plus rigides. En particulier sur cette question du veuvage, qui m'a semblé très rude comme discipline. Donc, j'avance parce que on peut reprendre, hein, vous me notez ces questions. Alors, ces cinq précis protestants, je les ai pris sur le site de la Fédération des Églises protestantes de France. Donc, le protestant, c'est un chrétien qui proteste. Il proteste contre quoi ? Contre tout ce qui pourrait aliéner la souveraineté et la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que il va mettre en premier cette gloire de Dieu qui ne peut pas être prise dans les mains d'une institution. À l'origine, finalement, c'est une question de discipline ecclésiale qui ne va pas. Vous voyez ? Il va insister également, mais ça, tous les chrétiens vont le dire, le Christ et l'unique médiateur, lui seul, sauf. Je ne vais... on est tous d'accord, hein, de toute façon, on est tous chrétiens, hein, c'est toujours plus des questions d'insistance. Après, vous avez la question de la grâce, du salut par la foi, etc. Là, l'important de cette grâce, c'est, n'oublions pas, comment naît le protestantisme. C'est, on est en pleine querelle des indulgences, si vous venez donner des sous pour construire Saint-Pierre de Rome, vous serez sauvés. Bon, j'exagère, mais c'est également, si vous priez bien, si vous dites, si vous êtes obéissant vis-à-vis de l'Église. Et pour le protestant, la grâce, c'est quelque chose qui est donné par Dieu seul. C'est Dieu qui sauve. et aucune action humaine ne pourra forcer cette grâce de Dieu. L'action humaine n'est qu'une réponse en remerciement à la grâce de Dieu. C'est le salut est promis.
C'est le jansénisme.
Ouais, oui, mais on est en plein 17e. On est en plein 16e. Mais c'est également Saint-Paul. Hein? C'est paulinien. C'est, de toute façon, c'est finalement le protestant, il cherche à purifier l'Église du 16e de ce qu'il considère comme des scories ecclésiales de la foi. Et c'est pas pour rien que notre pape François peut dire « Nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la réforme. » C'est pas parce qu'il a de la bonne volonté. C'est parce qu'il sait cette purification qu'ont voulu opérer les réformateurs. Et à l'origine, il n'avait pas du tout l'intention de Luther, il n'avait pas du tout l'intention de quitter l'Église. Hein? Il voulait la réformer. Voilà. Donc, cette grâce va répondre la foi, qui est un mouvement de réponse, mais que Dieu va susciter par son esprit. Auquel l'homme répond avec conscience. Donc, par exemple, ça va au niveau des œuvres dites de charité, ça va avoir une espèce d'attitude spirituelle différente. Entre guillemets, caricature, hein, une fois de plus, parce qu'on n'est pas si loin que ça les uns des autres. Mais le catholique va aider les pauvres pour plaire à Dieu, parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il fallait prendre soin des pauvres. Le protestant va dire, mais puisque j'ai tant reçu de Dieu, je rends à Dieu en aidant mon prochain. Alors, vous voyez bien que aucun de nous n'est complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Mais c'est une espèce de nuance spirituelle, et c'est là que la querelle de la foi et des œuvres se tient. Vous voyez un petit peu ? Sur le plan de l'éthique, ça crée une espèce de différence entre un catholique qui va chercher dans sa doctrine des règles éthiques, donc, alors que dans le protestantisme, il va chercher à se dire comment un homme sauvé va agir dans le cas présent. Plus pragmatique aussi, peut-être. Mais c'est compliqué. On est sur une ligne de crête, hein. On n'est pas du tout dans des écrits des fois différents. Et alors, j'arrive à ce fameux sola scriptura, les écritures seules. Et j'ai là un ouvrage plus protestant qu'André Gounel, c'est pas possible, et qui dit, c'est une légende de dire que le catholicisme à l'époque de Luther ne connaissait pas la Bible. Luther était professeur d'écriture sainte, et il avait appris l'écriture sainte dans des facultés de théologie catholique. Non, la grosse différence, c'est que pour Luther, pour Calvin, il faut donner le texte de la Bible à tous les fidèles. Et l'Esprit Saint se chargera de leur faire comprendre la Bible. Et nous sommes dans ce vécu maintenant. Mais c'est quelque chose que nous devons au dernier concile dans notre discipline ecclésiale. Pendant des siècles, nous avons eu l'écriture médiatisée par nos responsables ecclésiaux. Maintenant, d'ailleurs, cet exemplaire est un exemplaire de la traduction œcuménique de la Bible, nous avons la même traduction. Et Luther va être le premier à écrire la Bible en langue vulgaire, puisqu'en fait, il va entreprendre de traduire la Bible en allemand. Mais, n'oublions pas, ça n'avait d'intérêt que parce que 15 ans avant, on avait inventé l'imprimerie. Tant que de toute façon, on recopiait à la main, les gens qui pouvaient lire la Bible, ils parlaient latin. C'est quand on invente l'imprimerie qu'on passe à une partie suffisamment significative de la population qui accède aux livres. Donc, on est quand même également dans un changement d'époque. Alors, sur l'Église. Oui, il y a de l'ecclésiologie j'ai mis ces deux grandes familles de protestantisme. Je vous ai parlé des mouvements protestants traditionnels. Luthériens, presbytériens, anglicans, méthodistes. Bon. C'est les grandes églises qui ont la forme sociologique église. Vous vous rappelez, on a vu ça déjà. Et elles peuvent être épiscopaliennes ou non épiscopaliennes. Et puis vous avez la multitude des dénominations qui sont très nombreuses. Baptistes, Quakers, Pentecôtistes, Charismatiques, Assemblée de Dieu, Église indépendante. Bon. Il y en a. Certaines ne rassemblent qu'une ou deux communautés locales, quelques-unes, autour d'un pasteur charismatique. D'autres sont en fédération, Fédération Baptiste des États-Unis du Sud. C'était King. Elles sont toutes non épiscopaliennes et elles ont forme sociologique de la secte et la plupart du temps, elles ne baptisent pas les enfants. Ce qui explique, c'est pas qu'elles ne reconnaissent pas les baptêmes d'autres églises, c'est ça. C'est qu'elles ne reconnaissent pas les baptêmes qui ont été reçus par les enfants, puisqu'ils n'avaient pas la capacité de faire le choix pour eux-mêmes. C'est pas qu'elles ne reconnaissent pas le baptême des autres, c'est que c'est parce qu'elles l'ont reçu enfant. Donc elles rebaptisent les gens baptisés enfants. Vous voyez pourquoi, Alors, sur le plan ecclésiologique, de toute façon, c'est l'événement, c'est la parole qui rassemble. Et de ce rassemblement, donc c'est un événement. L'Église, c'est d'abord l'événement du rassemblement autour de la parole. Et de cet événement sort des institutions parce que l'humain est fait pour. Et donc, Confession d'Augsbourg, mais Calvin dit la même chose, il ne doit y avoir qu'une sainte Église chrétienne. Elle est de tout temps, elle subsistera éternellement. Elle est l'assemblée de tous les croyants auprès desquels l'Évangile est prêché purement et les saints sacrements correctement administrés, c'est-à-dire conformément à ce qui se passe dans l'Évangile. Donc il n'y en a que deux. Et les ministres dans l'Église protestante sont des serviteurs de la parole pour laquelle ils ont une compétence particulière, parce qu'ils la connaissent mieux que les autres. Un protestant qui se décide à être ministre, à 18 ans, il a déjà lu 7 ou 8 fois la Bible en entier. Les communautés, les églises visibles, elles sont faibles et précaires, et finalement, ce n'est pas ces églises qui sont importantes. Ce qui va nous conduire à ces questions. Donc là, simplement, un mot de foi et constitution pour nous dire que au niveau de la marche vers l'unité chrétienne, l'ecclésiologie est un point dur. Et je vais dire que dans les questions ecclésiologiques, j'ai sélectionné plusieurs points de rupture, mais qui ne séparent pas forcément les mêmes. D'abord, les univers culturels, entre Orient et Occident. Donc, les églises orientale, ça va comprendre les églises catholiques orientales. Hein. Les églises latines et protestantes, le protestantisme traditionnel, très christologique. Le Christ est vraiment la tête. L'Esprit Saint, les orthodoxes en parlent, mais également toutes ces églises évangéliques. Vous voyez ? Parce que l'esprit, c'est quand même pas mal du désordre. Hein. C'est pas mal de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui infuse là où on ne l'attend pas. Les églises latines se posent des questions sur qu'est-ce que l'Église, comment elle est structurée, le droit, qui a la préséance, les ministères, comment on s'organise, etc. Et surtout, il y a toutes ces questions autour de la liberté, de la grâce, qui sauve, comment l'homme peut faire des efforts pour accueillir le salut, quelle est la gratuité. C'est des questions que l'oriental ne se pose pas. Il n'a pas d'angoisse pour son salut, il accueille le salut du monde. Et il ne se pose pas la question du que faire moi, sinon prier, accueillir, vivre avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il vit mal, hein, mais ce n'est pas une angoisse au niveau de sa relation avec son Seigneur. L'oriental, il est mystère, mystique, en permanence. La question pour lui, c'est comment je vais être plus proche de mon Seigneur, de mon Dieu. Et comment l'Église va être signe moyen d'unité. Comment je vais être en communion par les sacrements? On est dans des questions existentielles différentes. C'est difficile, donc des cultures différentes. Et là-dessus, les latins et les protestants traditionnels sont assez proches. Autre rupture, les deux modèles de ministère. Le modèle épiscopalien, c'est-à-dire il y a des évêques qui ont en charge l'unité des églises locales sur un territoire, la gestion sur un territoire ou une juridiction, et qui ont en charge la communion des différentes églises locales, territoriales. Ce modèle épiscopalien, vous l'avez bien sûr dans l'Église catholique romaine, que ce soit latine ou orientale, vous l'avez dans les églises orthodoxes, vous l'avez dans les églises anglicanes, qui aux États-Unis s'appellent d'ailleurs épiscopaliennes. C'est l'archevêque de Canterbury qui a cette charge de l'unité de l'église anglicane. Vous les avez dans les églises luthériennes de Scandinavie, suédoises, danoises, etc. Et vous l'avez dans certaines autres églises protestantes, en particulier une qui est intéressante, qui est l'église protestante unie de l'Inde du Sud. Donc, mais qui est intéressante parce qu'elle provient de la fédération de plusieurs églises protestantes, de quatre églises protestantes, dont deux étaient épiscopaliennes et deux étaient non épiscopaliennes, et qu'elles ont réfléchi pendant une quinzaine d'années pour savoir si elles adopteraient le modèle épiscopalien ou le modèle non épiscopalien. Donc c'est vraiment un effort œcuménique pour ces églises. Et puis vous avez les modèles non épiscopaliens, toutes les églises presbytériennes où ce sont des collèges d'anciens qui animent les communautés locales, qui vont donc recruter, nommer les pasteurs, et qui vont fonctionner en fédération, l'église protestante unie. Mais vous avez à voir des églises baptistes qui fonctionnent comme ça, on n'est pas dans la même rupture qu'évangélique, non évangélique. Puis vous avez les congrégations, les églises congrégationnistes, où en fait une congrégation est isolée, souvent autour d'un pasteur charismatique, mais des fois ça se perdure pendant plusieurs générations. Dans ces églises de congrégation, vous avez celles qu'on appelle actuellement les méga-church. Pour les sociologues, ce sont des églises qui ont plus de 1000 pratiquants tous les dimanches. Donc en général, c'est autour d'un pasteur très charismatique qui qui a une parole très forte et qui sait organiser un groupe. Et quand je dis plus de 1000, il y en a qui montent à 6000, 10000 pratiquants tous les dimanches. Ah oui, avec moyens modernes de prédication. Hein. Donc, deux modèles. Ensuite, vous avez, et là, on arrive à la grosse question de l'intercommunion, deux visions, conceptions de l'unité de l'Église. Soit vous êtes dans une conception catholique ou orthodoxe, où l'Église, celle qui est théologique, l'unique Église de Dieu, sur la terre, il y a quelque chose de l'unique Église de Dieu dans les réalisations terrestres. La fameuse, cette unique Église de Dieu subsiste dans l'Église catholique. D'accord ? Auquel cas, elle a ce qu'on appelle un rôle sacramentel. On pense que cette unique Église de Jésus-Christ, elle est présente dans les églises historiques. Auquel cas, on ne va pas accepter l'intercommunion. Parce que ce sera mensonge vis-à-vis de la foi de se penser être d'une Église qui est l'unique Église de Dieu et de communier dans des gens avec qui on n'est pas uni. C'est avec qui on n'est pas d'accord. Soit vous êtes dans une vision de deuxième type, où l'Église de Dieu, c'est ceux qui sont soumis à la parole de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Les réalisations terrestres, de toute façon, ne sont pas bonnes. De toute façon, ne sont pas l'image de la véritable Église de Christ. On est dans une vision eschatologique, et donc, malgré nos divisions, nous pouvons être dans la communion si nous communions et sommes soumis à la même parole. Et donc, la plupart des églises protestantes admettent l'intercommunion entre chrétiens. Est-ce que vous voyez la différence de théologie de l'Église qui fait que dans un cas, on va admettre l'intercommunion et dans l'autre, on va admettre. Vous voyez ? Donc, on a une autre façon de faire. Ce qui explique que les protestants, entre eux, circulent parfaitement d'une église à l'autre, y compris d'une église qui a admis le baptême des enfants vers une église qui ne l'admet pas. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Parce que la réalisation de l'Église n'est qu'eschatologique et que ce qui se passe sur terre, c'est l'accueil de la parole de Dieu. Et l'événement de l'accueil fait l'Église pour l'instant. Alors que pour les catholiques et peut-être encore plus pour les orthodoxes, l'honnêteté spirituelle vis-à-vis de la division, du péché de division, fait qu'on ne peut pas pratiquer l'intercommunion. Alors,
le Vatican II a redéfini ça, l'Église. Il y a l'Église d'un côté, et puis, je reprends les notes que j'avais prises la dernière fois, l'institution visible.
Oui, mais dans la mesure où dans l'institution visible, il y a quelque chose de l'Église, alors, bon, là, je crois qu'on est un petit peu différent. Vatican II reconnaît l'Église aux orthodoxes, vous vous rappelez, oui. Mais pas aux protestants. Oui. Or, les orthodoxes ne nous accueillent pas. D'accord ? Donc, on ne peut pas communier dans l'orthodoxie puisqu'ils ne veulent pas de nous. Parce qu'ils estiment qu'il y a rupture de communion du fait de la prétention à la primauté romaine. Alors que le Vatican aurait été prêt à cette intercommunion, je pense. Mais après, vous avez ce que dit saint Paul, c'est-à-dire, si on choque l'autre, on ne force pas la main. Hein. En revanche, vous avez vu qu'il appelle que communauté ecclésiale les protestants, donc qui n'acceptent pas, au moins officiellement. Après ça, il y a la pratique. Tout le monde a vu sur les téléviseurs du monde entier le pasteur Roger Schulz, prieur de la communauté de Thésée, qui n'a jamais fait profession de foi dans l'Église catholique, recevoir pour les obsèques de Jean-Paul II la communion des mains du cardinal Ratzinger, préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, qui était plutôt rigide et qui a été élu pape 3 semaines après. Donc c'est toujours pareil. Il y a ce que l'Église dit et enseigne, et ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait dans la liturgie. Et là, ça a été... Lara, qui est très, très, très stricte sur ce qu'elle montre et ce qu'elle ne montre pas dans les cérémonies religieuses, ne montre jamais un chef d'État au moment de la communion. Parce qu'il ne faut pas savoir s'il a communié ou pas. Par contre, elle a montré ça. Donc c'est qu'elle avait l'aval du Vatican. C'est clair. Oui. Est-ce que j'ai le temps de dire 2 petits mots ? C'est un peu juste. Je voulais simplement vous parler des dialogues théologiques au plus haut niveau, ou pas d'ailleurs, sur les questions doctrinales, qui peuvent être bilatérales ou multilatérales, sur des questions doctrinales. Vous dire que ceci, ça a fait beaucoup avancé le féminisme, mais on a vraiment des fois l'impression que la montagne accouche d'une souris. Alors, je saluerai quand même beaucoup ça, la question de la doctrine sur la justification, cette fameuse justification par les œuvres ou par la grâce et tout, où on arrive avec un accord entre les luthériens et les catholiques. Mais finalement, est-ce que c'est ça qui va nous faire avancer vers l'intercommune ? En revanche, la déclaration de Balaman entre l'Église catholique et 9 églises orthodoxes, c'était sur la question de l'uniatisme, là. Ce n'est pas une déclaration très équilibrée, elle ne va pas très bien. Les accords multilatéraux, là, foi constitution, autant ce texte, baptême, eucharistie, ministère, a eu beaucoup de fécondité, mais vous voyez sa date. En particulier dans la reconnaissance du baptême entre les différentes églises. Reste ce problème de savoir si on des églises qui ne reconnaissent pas le baptême des enfants. En revanche, celui-là, de Penang, en 2012, alors qu'il a demandé 20 ans de travail, pour l'avancée que ça a eu, les gens, finalement, n'y croient plus trop. Je crois que c'est un peu ça. Et donc, on arrive, finalement, à une nouvelle vie de l'œcuménisme, se rendre compte que les séparations doctrinales, elles sont doctrinales, mais c'est tellement le vivre ensemble, la façon d'être et tout, c'est difficile, qu'on est dans un nouveau conflit de texte. Et ce qu'on voit apparaître, c'est le développement de ce que j'appelle un œcuménisme pratique, c'est-à-dire d'abord tout ce qui est action commune au niveau de la fonction royale de l'Église, et puis tout ce qui est parole, vie en commune, tout ce qui est prière commune, dès que on ne met pas en place l'Eucharistie. Et enfin, je soulignerai ce que Jean-Paul II appelle au début du texte, au premier signe que j'ai là, l'œcuménisme du sang. Donc, le texte de Jean-Paul II à la page 3, à la 4e ligne, le témoignage courageux de nombreux martyrs de notre siècle, y compris ceux qui sont membres d'autres églises et d'autres communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, donne à l'appel conciliaire une force nouvelle. Un peu plus loin, nos frères et sœurs qui ont en commun l'offrande généreuse de leur vie pour le royaume de Dieu attestent de la manière la plus éloquente que tous les facteurs de division peuvent être dépassés et surmontés dans le don total de soi-même pour la cause de l'Évangile. Voilà. Donc,
c'est
Luther King, c'est le pasteur Bonhoeffer, qui, s'ils avaient émergé à l'Église catholique, parce que si on les canonisait, on choquerait nos frères protestants, mais s'ils avaient été de l'Église catholique, auraient été canonisés comme martyrs. Voilà. C'est le pasteur Desmond Tutu d'Afrique du Sud, qui est anglican, évêque. Voilà. Alors, la semaine prochaine, donc, questions, parce que je suis allée à toute vitesse dans la deuxième partie, mais comme ça, on pourra avoir d'autres questions. Merci. Sur ces merci. Questions de
pratique. Vous avez parlé de Bonhoeffer, oui. Il y a quelque chose sur Bonhoeffer. Bonhoeffer.
Bonhoeffer est un pasteur protestant qui a beaucoup travaillé dans les années 30 pour former des pasteurs pensant qu'il y ait une solidité spirituelle vraiment très, très importante et qui s'est beaucoup engagé dans la lutte spirituelle contre le nazisme et qui a fini par être exécuté, si je vous dis la date, le 8 avril 45. Donc, voilà. Exécuté donc par le pouvoir nazi. Une énorme perte pour la théologie, parce que c'était un théologien de l'Église absolument remarquable, il avait 39 ans. Donc, pour la théologie, quand on sait déjà ce qu'il nous a laissé en quantité d'écrits théologiques, alors qu'il est mort aussi jeune. Donc, Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien, enfin, tout le monde le considère comme un martyr de l'Évangile, hein. Oui, il y a beaucoup de...